Allez, tout d'abord, on remercie à nouveau Anaël et Auriel qui nous soutiennent pour le cours de ce soir, pour leur Hatzlacha dans tous les domaines, Bezrat Hashem, et que ce cours aille pour la Refoua Shelema de...
Eliane
Bad Joar
et Rivka Bat Simcha
et de Shira Bat Yael Esther. Alors, vous êtes dans votre page Gimel Amoud Bet, on est en plein milieu de la page, en plein milieu. La ligne commence par N Dor Yatom. C'est vraiment le milieu de la page. N Dor Yatom, vous l'avez ? Ok. Mechila, c'est la ligne d'en dessous. Betocho. Betocho. Et on commence au mot Velimru. Vous l'avez ? Ok. Je vous remets dans le contexte très rapidement. Rappelez-vous, il y a 3 semaines maintenant, voire 4, on avait raconté l'histoire de Rabbi Yehoshua qui était resté chez lui, qui n'avait pas été au Beit HaMidrash, qui a reçu ses élèves. C'était le jour de Yom Tov. Les élèves sont arrivés. Rabbi Yehoshua leur a dit, racontez-moi ce que vous avez appris au Beit HaMidrash. Et ils ont commencé à tourner le truc dans tous les sens en disant, oh, mais non, on n'a rien appris au Beit HaMidrash. Pour nous, la Torah, c'est toi. On apprend la Torah que de toi. D'accord ? Donc, on ne peut rien avoir appris en dehors de ta propre Torah, etc. Finalement, il a insisté et ils ont raconté la dracha qui était faite au Beit HaMidrash finalement. Vous vous rappelez ? Bien, c'était une jolie midrash, pas besoin de revenir là-dessus. Et là, maintenant, la Gemara, elle pose la question. « Vélim roulé behédia » On dit, mais dis-moi, t'as besoin de... qu'on te tire les vers du nez à ce point-là. Attends, t'es arrivé chez ton maître. Ton maître, il t'a dit, raconte-moi ce que t'as raconté au Beit HaMidrash. D'accord, eh ben raconte ce que t'as appris au Beit HaMidrash. T'as pas besoin de dire... Et non, nous, la seule Torah que l'on a, c'est la tienne. Et on n'apprend rien en dehors de toi. Et c'est de ton eau que l'on boit, etc. Ça va, t'es lourd. D'accord, c'est ton maître. Enfin, c'est, d'accord, arrête de faire du zèle. C'est ton maître, t'es venu le voir, c'est déjà gentil. D'accord. Que tu dises au début, allez, c'est toi notre maître, c'est très bien, Khazak. Mais n'exagère pas. D'accord, t'as pas besoin d'en rajouter des tas. Donc, si ton maître, il te demande, réponds et c'est tout. Pourquoi ? Ils ont trouvé toutes ces phrases d'introduction pour refuser de raconter ce qu'ils ont entendu au Beit HaMidrash. Et il a fallu que le maître, il insiste tellement pour qu'il raconte.
C'est
donc,
aussi en référence à la petite histoire qu'il y avait derrière. C'est que quand il y a un des raves qui s'était fait exclu avec... c'était l'histoire le rave de...
Ouais, d'accord.
Donc il y avait une gêne peut-être...
Mais au niveau, honnêtement, pas à ce niveau-là. Ouais. Pas à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a eu un jour un problème au Beit HaMidrash parce qu'il y en a un qui a manqué de respect, mais c'était flagrant. Ouais. Rappelez-vous, il avait laissé debout pendant toute la séance de trucs. C'était flagrant comme manque de respect. Ouais. Mais là, ça va. C'est ton rave qui te demande, c'est pas toi qui es arrivé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas les élèves, ils sont arrivés comme ça avec orgueil, en disant « Oh là là, on a appris un truc incroyable, il faut qu'on vous raconte », comme si tu ne sais pas ce qu'on a étudié au Beit HaMidrash. Là, effectivement, ça manquait de kavod. Mais là, ça va, t'es venu. Il vous a posé une question, alors qu'au début, tu refuses un petit peu, c'est gentil, c'est bien, mais pas à ce point-là, d'accord, de rajouter ton eau qu'on boit et on ne vous fait rien d'autre que toi, la Torah, c'est ta Torah, enfin, d'accord, c'est un peu trop, quoi. Donc, la Gemara elle-même, elle pose la question, « Vélim roubé Edia, mais attends, ça va, dis-lui, le pauvre, il t'a posé une question, dis-lui directement ce que vous avez appris, dès qu'il te le demande, d'accord, ne tourne pas autour du pot. » Et en fait, on répond, « Mishum ma'asecheya, en fait, ils avaient en tête... une histoire qui s'était déjà passée et qui les a terrorisés. Ils étaient terrifiés. Et à cause de cette histoire, qu'on va raconter tout de suite, ils n'ont pas osé dire quoi que ce soit devant leur rave. Quelle est l'histoire ? La voici. Détania, c'est une braïta. Maase berabi Yossi ben Dour Maskit. L'histoire de Rabbi Yossi, fils de Dour Maskit. Shalach lagbil pene Rabbi Eliezer Belod. Et un jour, lui aussi, il a été voir son maître, qui s'appelait Rabbi Eliezer, dans la ville de Lod, que l'on connaît encore aujourd'hui. À Marlo, Machidush Ayabe Beit HaMidrash Hayom. Et son maître lui pose exactement la même question. Il dit, ah, c'est tombé, moi, j'ai pas été au Beit HaMidrash aujourd'hui, j'étais fatigué, etc. Si toi, tu y étais, raconte-moi, quel était le chidush du Beit HaMidrash ? Qu'est-ce que vous avez appris au Beit HaMidrash ? À Marlo, Nimnu Vegamru, Amon ou Moav. Mais à Sérine, Maaser, Ani, Bachevit. Alors, l'enseignement du Beit HaMidrash. Alors, l'élève, il répond. Ben voilà ce qu'on a appris au Beit HaMidrash. Alors, c'est un enseignement, on fait une parenthèse pour comprendre l'enseignement déjà. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont appris au Beit HaMidrash ? Alors, on fait une petite parenthèse qui nous permet de rafraîchir un peu notre mémoire sur les halakhot, sur la Shemitah. Bah tiens, ça tombe bien. Les halakhot sur la Shemitah. Oh, vous savez, c'est une galère sans nom. Hein. Ah, c'est une galère sans nom, la Shemitah. Oh, oh pff. Et pour ceux qui vivent en Israël, oh, c'est dur, les pauvres. C'est, honnêtement, hein, c'est une super mitzvah, mais oh, à réaliser, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment un niveau incroyable. Hein, quand on dit que ceux qui font le... C'est écrit dans le Midrash. Que ceux qui respectent les halakhot de la Shemitah, que ce soit les agriculteurs, comme le peuple, d'accord, les messieurs tout le monde, ceux qui sont comparés à des malachim, à des anges. C'est hyper compliqué. Déjà, il faut une abnégation incroyable de la part de l'agriculteur, de laisser n'importe qui rentrer dans son champ, se servir, d'accord, prendre et partir. C'est quand même déjà assez balèze. Hein. Je ne suis pas sûr que nous tous, commerçants de n'importe quelle boutique, tu accepterais de laisser ta boutique ouverte et que chacun vient prendre une paire de chaussures gratuitement. D'accord, vas-y, je vous en prie, servez-vous. D'accord, bah, l'agriculteur, c'est pareil, hein, c'est un commerçant. D'accord, donc c'est un niveau effectivement qui est incroyable. Mais les lois de la consommation de ces fruits-là, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas d'interdit de les consommer, les fruits de la Shemitah. Ça, c'est un mythe populaire. On a bien évidemment le droit de manger. C'est d'ailleurs la Torah qui nous dit. C'est fait pour manger justement pour le peuple. Donc tout le monde vient manger des fruits de la Shemitah. Mais la difficulté, c'est que ces fruits sont kadosh. Ils sont sacrés. Ça veut dire que tu dois les manger, c'est très bien. Mais tu n'as pas le droit de jeter quoi que ce soit de ces fruits. Rien, tu n'as pas le droit de jeter. C'est-à-dire que tu n'as pas mangé ta pomme entière, tu as laissé un morceau de pomme. Tu ne peux pas la mettre à la poubelle, cette pomme. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'en faire du commerce, tu n'as pas le droit de la jeter à la poubelle, tu n'as pas le droit de l'amener en dehors d'Eretz Israël. Donc imagine, tu prends l'avion, d'accord, tu mets une pomme dans le sac pour la manger en cours de route ou à l'arrivée à Paris, tu n'as pas le droit, c'est assour. Cette pomme, elle est Kodesh. Elle doit être mangée en Israël. C'est extrêmement compliqué. Imaginez à l'échelle des restaurants, les traiteurs, comment ils font quand ils servent et que le gars, il n'a pas fini son assiette. D'accord, et qu'il y a des fruits, il y a des légumes, des machins. On peut rien jeter. C'est assour, mais assour par la Torah. C'est kadosh. D'accord, on peut rien en faire. C'est hyper compliqué. Bon, mais laissons ça de côté. Mais c'est le sujet. Et on nous dit que tous les agriculteurs qui vivent en Israël doivent faire des prélèvements. Le maaser, la terouma, etc. Bien. Vous savez qu'il y a différentes sortes de prélèvements. En fait, le raisonnement, on va le résumer, hyper résumé, d'accord, c'est que c'est un cycle de 7 ans. C'est la Shemitah qui fait le cycle, d'accord, c'est un cycle de 7 ans. Selon l'année, il y a des prélèvements spécifiques. Il y a des prélèvements qui se font tous les ans, quoi qu'il arrive. Pour le Cohen et le Lévi, ça c'est un truc fiable, d'accord, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'année, il y a la part pour le Cohen, il y a la part pour le Lévi, c'est normal, ils travaillent pour nous. Ils n'ont pas de territoire, je vous rappelle, en Israël. Donc du coup, c'est normal que le peuple donne à manger aux Cohen et aux Lévi. Que ce soit les fruits et les légumes, que ce soit la pâte pour faire du pain, des gâteaux, des céréales, etc. C'est normal. D'accord ? Ils travaillent pour nous, on travaille pour eux. Chacun dans sa dimension. D'accord ? Pour nous, d'ailleurs, entre parenthèses, ça n'a jamais gêné le peuple d'Israël depuis le début du concept juif. Ça n'a jamais gêné qu'on ne soit pas tous dans les mêmes conditions sociales et que certains n'ont pas et des privilèges, mais que certains se consacrent dans certains domaines, et que d'autres sont dans d'autres domaines, et que grâce à leur domaine à eux, eh bien, ils aident les autres qui sont dans un autre domaine, et que les autres aussi sont au service de leurs frères. Ça n'a jamais gêné l'histoire du peuple d'Israël. On a toujours eu des zones de travail, d'influence, qui sont différentes, mais c'est ça la grandeur du peuple d'Israël.
Il y a quand même une aspiration... au travail au Beit HaMikdash, et c'est que les Kohanim qui peuvent, etc. Enfin, toutes les disputes, je veux être moi le Kohen.
Certes, il y a une aspiration à la spiritualité, mais une fois que les choses sont tranchées et que c'est le Kohen qui travaille au Beit HaMikdash, d'accord, eh bien, moi, je peux concevoir, moi qui ne suis pas Kohen, le Kohen, du coup, il travaille pour moi, il fait les korbanot, il fait le lien avec Akadosh Baruch Hu, la spiritualité, etc. Et que moi, qui suis dans mon champ en train de travailler, je peux tout à fait concevoir, et ça ne me gêne pas, en me disant, ah ouais, non, mais c'est pas normal, c'est moi qui me lève le matin pour travailler mon champ, etc. C'est un scandale que l'autre, il bosse pas comme moi. En réalité, ça ne nous a jamais gênés. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grandeur du peuple d'Israël, c'est qu'on est complémentaires. On est tous complémentaires. Il y a les Kohanim, il y a Issachar, il y a les Zevouloun. D'accord. C'est exactement pareil. Il y a ceux qui étudient la Torah et ceux qui bossent. D'accord. Bah oui, d'accord. Bah, ça gêne personne. Enfin, ça ne gêne personne. D'accord. Que ceux qui étudient la Torah donnent de leur mérite à leurs frères qui, eux, n'ont pas le temps d'étudier la Torah parce qu'ils sont plus commerçants et qui doivent traverser les mers pour faire du commerce. Et que le gars qui fait du commerce, il amène sa nourriture pour le gars qui étudie la Torah, et que le gars qui étudie la Torah, il donne son mérite d'étude et l'influence positive de la Torah à celui qui fait du business. Ça n'a jamais gêné le concept juif d'avoir des zones différentes. Mais, en tout cas, on a des prélèvements, donc le Cohen et le Lévi, quoi qu'il arrive, ils ont leurs prélèvements. Nickel. Mais il y a des prélèvements qui sont spécifiques selon l'année du cycle. Par exemple, des fois, il y a des prélèvements qui sont réservés aux pauvres. Et il y a des fois, il y a des prélèvements qui ne sont pas pour les pauvres, mais qui sont pour moi. C'est marrant, c'est un prélèvement pour moi. Mais alors, pourquoi ça s'appelle un prélèvement? Parce que ce prélèvement-là, je dois le consommer à Jérusalem. C'est pour moi, mais c'est à Jérusalem. Et ça s'appelle tout simplement soit Maaser Ani, avec un Aïn, le Maaser pour les pauvres, qui va donner l'allusion future du maaser que l'on donne sur notre argent, ça vient de là. Donc le maaser ani, le maaser pour les pauvres, et il y a le maaser sheni. Le maaser sheni, c'est la même quantité, mais c'est pour moi. Je la mange à Jérusalem. D'accord ? Donc tous les ans, on doit aller, enfin les années en question, je dois aller à Jérusalem pour consommer ce maaser. Très bien. Parfait. Tout est nickel. Les années, c'est 1, 2, 4, 5 pour le maaser ani, les pauvres. Et l'année 3 et 6, c'est pour moi. Et je le mange à Jérusalem. C'est bien ? C'est bien. La septième année, c'est la Shemitah. Qui dit Shemitah ? Puisque personne ne peut commercialiser la marchandise de l'année de la Shemitah, il n'y a pas de prélèvement à faire. Tout est ouvert pour tout le monde. Aucun prélèvement. D'accord ? J'ai le droit de manger, bien évidemment. Le propriétaire aussi a le droit de manger, hein, ses fruits. Hein. D'accord ? Mais il n'a pas le droit d'en faire du commerce. Il n'a pas le droit de faire toute la récolte. Mais il a le droit, bien évidemment, de manger pour lui. Il n'est pas moins que les autres. Il est au même titre que les autres, en réalité. C'est ça, la Shemitah. C'est qu'on est tous au même titre. Moi, propriétaire, et toi, étranger, on est tous pareils. D'accord ? Donc, du coup, moi aussi, j'ai le droit, bien évidemment, de manger de ma récolte. Mais j'ai pas le droit d'en faire du commerce. Bien. C'est la Shemitah. La Shemitah, pas de maaser. Et c'est ouvert pour tout le monde. Se pose la question. Alors là, écoutez bien. Il y a un territoire qui s'appelle Ammon et Moab. Ce territoire, c'est sur la rive du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain. Rappelez-vous de l'histoire. Lorsque Gad et Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché n'ont pas voulu pénétrer en Israël. Vous vous rappelez de l'histoire? Ils ont dit, oh, on est bien ici, là c'est sympa, il y a de la verdure, etc. Nous on a plein de troupeaux, ça nous arrange bien d'être ici. Ce territoire-là, c'est Israël ou c'est pas Israël?
Logiquement, ce ne serait pas Israël, puisqu'ils étaient censés rentrer, ils n'ont pas voulu.
Mais est-ce que ça devient Israël ou ça ne devient pas Israël? Que ce n'était pas prévu comme être en Israël, c'est une chose. Mais à partir du moment où ils s'y installent et que Moshe a donné son feu vert, et qu'ils ont respecté leurs paroles, ils ont été au combat avec leurs frères et après ils se sont installés, etc. Ce territoire, c'est oui Israël ou ce n'est pas Israël?
C'était prévu qu'il s'installe ici.
Ah, intéressant. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu n'avait pas prévu que truc? Donc c'était nécessairement prévu.
C'est Israël.
Fazak. Alors c'est Israël, pas Israël? Israël. Mais est-ce que c'est Israël à 100%? Tu vois ce que je veux dire? Intéressant comme débat. En fait, c'est un débat. C'est un vrai débat. Et comment est-ce qu'il se manifeste ce débat? C'est de savoir, est-ce qu'on doit faire les prélèvements du Maaser, de la Terouma, de la Shemitah sur le territoire de Ammon et Moab? Si tu dis que c'est Israël vraiment, alors il faut faire tous les prélèvements. Si tu dis que c'est pas vraiment, alors il y a peut-être une condition sociale et politique et économique qui est différente.
Mais c'est pas que territorial, ça dépend de la propriété de la terre. Comme aujourd'hui, on peut prendre des fruits de Gaza.
Ça doit nécessairement être territorial.
Ouais.
Parce que c'est pas que le propriétaire, parce que si toi t'as un champ ici en France,
ouais,
et que tu fais ta récolte, bah y a pas de maaser à faire là-dessus, y a rien, y a pas de terouma, y a rien, y a pas de shemitah. Donc, c'est pas un problème de propriété. C'est un problème de territoire.
Ce que je veux dire, c'est que même si c'est sur le, si c'est sur le territoire...
Ah, donc là, c'est encore autre chose.
Et que c'est de la propriété d'un non-juif...
Ok.
C'est, donc, c'est pas que territorial.
Donc, c'est un mélange des deux. C'est territorial et...
Oui, c'est...
Razak.
C'est
donc, il faut les deux.
Oui.
Donc, se pose la même question, c'est toujours la même question. Ammon et Moab. C'est territorial, à partir du moment où Moshe a dit « C'est bon, ça s'appelle Israël, ouais. puisque maintenant vous allez vous y installer, Dieu vous a donné le feu vert. » Donc, c'est oui, Israël. Et en plus, vous êtes les propriétaires. Razak. D'accord. Donc, a priori, il y a les deux critères. Donc, s'il y a les deux critères, alors c'est Israël. Israël à 100% ou pas à 100%. C'est un vrai débat. Il y a exactement la même question sur Eilat.
Ouais.
Vous connaissez le débat, c'est un truc de dingue.
Ouais, c'est
hein, Razak.
Selon la Torah,
c'est pas Israël, Eilat. D'accord, la frontière, elle est juste avant. Il n'y a pas Eilat. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, le Maaser à Eilat, etc., c'est Midera Banane. C'est pas Minatora. Hein? Alors, ça je suis chaud, on va couper l'enregistrement parce que c'est un truc à faire exploser une communauté, ça. D'accord, c'est un truc de dingue, c'est un grand débat. Ok, on laisse de côté le débat à la RIC, on demandera au Dayanim. D'accord, de trancher. Hein?
Ça va être tranché.
Pas évident. Pas évident, certains bien évidemment disent que c'est quand même un seul jour et d'autres disent ah, c'est pas les frontières, etc. Compliqué. D'accord. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, je vous lis la note que j'ai ici parce qu'elle est importante. Écoutez bien ça. Ka asher nirbeshu artsot elu shel Amon u'Moav u'me Moshe. Nit kadeshu bigdushat eretz Israël. Va'ikanu eket ba'hem kol dine shmita. Qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque l'on a fait la conquête d'Eretz Israël, ainsi que de Amon et Moab, puisque Amon et Moab c'était à l'époque de Moshe, d'accord, on est bien, qu'on a fait tout cela, du coup, il y a une notion qui est extrêmement importante dans la conquête d'Eretz Israël, c'est d'être Mekadesh la terre d'Israël. Je sanctifie la terre d'Israël, qui ne l'était pas jusqu'à présent, pas totalement, parce qu'il n'y avait pas d'autre présence sur la terre. C'est la présence des Juifs sur la terre d'Israël qui confère à la terre son véritable statut de Kedusha. Bien évidemment qu'il y a quand même de la Kedusha, mais il n'est pas complet en réalité. Pour que les halakhot s'appliquent, etc., il faut qu'il y ait des Juifs qui vivent là-dessus, qui soient les propriétaires du pays. Bien. Donc, les territoires de Ammon et Moab ont eu exactement le même statut halakhique que le reste du pays. Donc, c'est effectivement Israël à 1000%. Les mêmes règles. Même, Shasur l'Izroa Bishvenat Hashevit, Shegdul Hashevit, Peturim Mitroumatou Maasrot. Par exemple, ça veut dire que les lois de la Shemitah s'appliquent aussi sur le territoire de Ammon et Moab. C'est normal. Et que les lois du Maaser et de la Trouma, etc., s'appliquent aussi sur le territoire de Ammon et Moab. C'est clair, très clair. Et là, c'est le Chidouche. Bechurman bet rishon, nit batela kedushat haaretz, umimela nit betelu kol amitzvot atluyot baaretz. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut savoir. C'est que ce qu'on appelle la première kedusha de la terre d'Israël, c'est-à-dire celle avec la conquête de l'époque de Moshe et de Yehoshua, ce n'est pas une kedusha éternelle. Après la destruction du temple et l'exil du peuple en Babylonie, la Kedusha d'Eretz Israël a disparu. Nit Batela. Elle est devenue Batel. Elle s'est annulée. Elle a disparu. Il n'y avait plus de Kedusha halakhique sur la terre d'Israël. Ça reste la terre d'Israël, mais il n'y avait plus la Kedusha. Elle n'était valable que tant qu'on vivait sur la terre. On l'a amenée avec nous et on l'a reprise avec nous, en quelque sorte, avec notre départ en exil. La Kedusha est partie. Je continue. Et là, Shadaïr Hayavim, Sham Bemaasrot, Sheken Miderabanan, Aratzot Asmuchot Leeret Israël, Hayavim Bemaaserot. Mais on nous dit quand même, il n'y avait plus de Kedusha de Shemitah, c'était fini, plus de Shemitah. Mais on faisait quand même le Maaser. Un souvenir, d'accord, de ce qui se passait en Eretz Israël. On faisait quand même le Maaser. Mais pas de Shemitah. Il n'y avait plus de Shemitah. C'était fini. Ur Shechazrou Bebaït Sheni, Veshuv kitshu et haaretz. Au retour après l'exil. Donc il y a un peuple qui revient sur la terre d'Israël. En revenant sur la terre, grâce à la conquête qui est réalisée à ce moment-là, la Kedusha de la terre d'Israël revient à ce moment-là. Donc, toutes les lois de Shemitah, etc., se remettent en place. Ish iru bekavana et haaratzot halelu shel Amon u'Moav bilti mekudashot. Et ils ont fait exprès de ne pas conférer au territoire de Amon et Moav, qui était de l'autre côté du Jourdain, ils ont fait exprès de ne pas en faire les conquêtes officielles. Ils n'ont pas voulu que ces deux territoires retrouvent leur Kedusha de l'époque. Comme si on n'était pas revenu sur ces territoires, alors qu'on y était. Mais on n'en a pas fait une conquête halachique. Ça veut dire qu'on n'a pas sanctifié le territoire. Vous allez dire, pourquoi ils ont fait ça ? Kedé, afin. Chez Dine Shmita, lo yarzeru l'itnaek bahen. Ils l'ont fait volontairement pour que sur ces deux territoires, on ne soit pas concerné par les lois de la Shmita. Ils ne voulaient pas que sur ces territoires, on fasse la Shmita. Pourquoi ? Mais à Tama Madarzot et Elou, ou Kish Aratzot Asmuchot Rayavim Bemaaser. Verabi Yossi Ben Dor Meskit, Mesaper, Chebe Maaser, Bema Amon ou Momav, Chachamim Nimnu, Betiknu, Les Shana Ashmita, ou Maaser Ani, et Toilette Nosefet Avuraïniim. Dit comme ça. Pourquoi ils n'ont pas voulu conférer de Kedusha à ce territoire de Amon et Moav ? Ils ont dit comme ça, il n'y a pas de Shmita. Donc c'est une année normale, durant laquelle on va faire les prélèvements habituels, classiques du coup, puisque c'est un territoire sur lequel on peut faire du commerce, de la production agricole. On peut faire du commerce, donc du coup, s'il y a du commerce, ça veut dire qu'il y a les lois, il y a les lois du Maaser. Donc il y a les prélèvements pour les Kohen, il y a les prélèvements pour les Lévis.
Si c'est pas Israël.
Du quoi ?
Si c'est pas Israël, du coup.
C'est Israël quand même. Ah, non, pardon, ce n'est pas Israël, il ne prend pas la Kedusha de Israël. Mais à quel titre, du coup, il faut faire le Maaser par rapport à une autre loi ? C'est quoi la loi ? C'est que tous les territoires qui longent les frontières des Rêtes Israël sont concernés, d'après les Chachamim, par les lois du Maaser. Pas par les lois de la Shemitah, par les lois du Maaser. Par les Chachamim. C'est pour ça qu'à Eilat, on fait le Maaser Midé Rabbanan. Ça, c'est la halakha, effectivement, ça, par contre, c'est tranché. Mais pas par les lois de la Shemitah. Du coup, pourquoi ils ont fait ça ? Pour permettre aux pauvres d'avoir un prélèvement qu'il aurait réservé sur le territoire de Amon et Moav pour nourrir les pauvres du pays. Parce que si c'est une année normale de Shemitah, il n'y a pas de prélèvement pour les pauvres. Donc les pauvres, ils n'ont pas de la nourriture qu'on va leur offrir. On dit, attends, mais t'as pas besoin. C'est la Shemitah. La Shemitah, c'est ouvert pour tout le monde. Eh bien, tu sais ce qu'ils nous disent, que dit la Gemara ? Bien que ça soit ouvert pour tout le monde, la nature humaine, c'est toujours la même. C'est que les premiers qui se manifestent et qui rentrent dans les champs, c'est les gens les plus riches. C'est comme ça, c'est la nature humaine. T'as un truc gratuit, même ceux qui viennent, c'est les riches. Eh bien, vous êtes riches, vous n'avez pas besoin d'aller aussi vite pour prendre. C'est la nature humaine. Et ils s'imposent plus que les pauvres parce qu'eux, ils sont plus dans la tzniout, ils sont plus dans la discrétion, ils n'ont pas le toupet de se présenter comme ça, d'être les premiers dans la rangée, d'accord ? Et du coup, même les années de Shemitah, les pauvres, ils osaient à peine rentrer dans les champs pour aller prendre. Ils avaient honte. Et souvent, quand ils venaient, c'était déjà trop tard. Il ne restait plus grand-chose. Tous les autres étaient passés devant eux. Pour protéger les pauvres dans leur situation sociale, les malheureux, les Chachamim, au retour de l'exil, ils ont dit aux Juifs, les territoires de Amon et Moav, on ne les rend pas kadosh. On les laisse dans un système normal de proximité avec Israël, durant lesquels, pour lesquels on va respecter les lois de Maaser tous les ans, quoi qu'il arrive, même pendant l'année de Shemitah, ce ne sera pas une année de Shemitah. Et le maaser que l'on fera cette année-là, ce sera le maaser pour les pauvres. Donc les pauvres étaient nourris par le maaser ani des pauvres de l'année de la Shemitah du territoire de Hamon et Moab. Ça, c'est la puissance des Chachamim. C'est la puissance des Chachamim. Je ne sais pas quelle était la clé pour faire ça. C'est la puissance des Chachamim. D'accord ? Et ils l'ont fait. Hein. C'est une réalité historique. Ça s'est passé comme ça. C'est quand même intéressant parce qu'on voit de là quand même que le principe de la Shemitah n'est pas aussi simple que ça. Et que même si dans un idéal théorique, c'est génial, tout le monde est à la même enseigne, etc. Il n'y a pas de différence, les riches, les pauvres. Il y avait quand même une inquiétude chez les Chachamim que les pauvres n'aient pas suffisamment à manger. Et que du coup, puisqu'il y a un territoire comme ça qui est déjà naturellement en dehors des frontières d'Israël à l'origine, qui est un peu rajouté, qui s'est rajouté sur l'histoire qu'on connaît de l'époque de Moshe, du coup, ils se sont dit, bah, vous savez quoi, ce territoire-là, on ne va pas le rendre kadosh à nouveau. On va le laisser neutre. Comme ça, on fera juste les lois du Maaser parce que c'est une proximité avec Israël et on est concerné par le Maaser Midérabanan et on ne fera pas les lois de la Shemitah sur ce territoire pour permettre aux pauvres d'avoir de quoi manger plus facilement. Parce que sur ce territoire-là, les riches, ils ne vont pas se pointer parce qu'ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, ce territoire. Ça reste réservé aux pauvres. Ça reste réservé, en fait, aux propriétaires et le propriétaire a le devoir de faire le Maaser qu'il offrira à tous les pauvres. Donc, c'est ça le chidouche qu'il y avait au Beit HaMidrash. Chidouche. D'accord ? Donc, je vous remets maintenant, on ferme la parenthèse, je vous remets dans le fil du truc. Il y a un rave, c'est Rabbi Eliezer. Il est dans la ville de Lod. Il n'a pas été au Beit HaMidrash. Il y a un élève, il vient voir son rave. Le rave lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris au Beit HaMidrash ? Et hop, il lui raconte cette histoire qu'on vient de raconter là, avec les détails, etc. Parfait. Réaction du rave. Quand il entend le chidouche du Beit HaMidrash, à Marlo, il lui dit, Yossi, mon cher Yossi, donc il n'appelle pas Rabbi Yossi, il appelle Yossi, mon cher Yossi, Peshot Yadecha Vekabel Aenecha. Tends tes mains afin d'y recevoir tes yeux. Tu vas perdre tes yeux à l'instant. Donc, je te conseille de tendre tes mains pour recevoir tes yeux. Réaction de Rabbi Yossi. Réaction de Rabbi Yossi. Pashat Yadav, Vekibel Enav. Il a tendu les mains et il a reçu ses yeux. Il en a perdu les yeux. Bacha Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il pleure, donc c'est le rave qui était à la maison, à Lod. Rabbi Eliezer pleure, Ve'amar, Sod Hashem Yireav Uvrito Leodiam. Il dit, waouh, le chidouche du Beit HaMidrash était vraiment magnifique. C'est un vrai chidouche que je viens d'apprendre, enfin que je viens d'entendre, pardon. C'est un vrai chidouche, et tellement j'en suis conscient que c'est un vrai chidouche. Il prononce le verset suivant dans les Tehillim. Le secret de Dieu est réservé à ceux qui le craignent, ouvrito leodiam, et que son alliance, il l'a fait avec ceux qui proclament son nom. Donc vraiment, ça veut dire qu'au Beit HaMidrash, il y a des gens bien, puisqu'ils ont le secret de Dieu. Dieu a révélé un secret à ce moment-là, donc j'en suis ému, bacha, et j'en pleure. D'accord, tellement au Beit HaMidrash, il y a des gens bien qui ont découvert comme ça une vérité et un chidouche incroyable. À Marlo, et il dit donc à Yossi, l'air, maintenant, voilà ce que tu dois faire. Repars d'ici. Et Morlaem, va au Beit HaMidrash et va leur dire Al tachushu liminyanechem. Kar mekubalani merabanan yochanan ben zakai, sheshama mirabo, verabo mirabo, ilcheta le moshe misinai, amon ou moav, me aserin maaser ani, bacheviit. Il dit à son élève, retourne au Beit HaMidrash et va dire au maître du Beit HaMidrash, ne vous inquiétez pas, cher maître, vous ne vous êtes pas trompé dans l'enseignement du jour. Il est bon. Pour preuve, c'est un enseignement que je connais, que j'ai reçu de mon maître est mon maître de son propre maître, et son maître encore de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Alacha les Moshe Mi-Sinaï, il y a une Alacha de l'époque de Moshe au Sinaï, que le territoire de Ammon et Moab, donc c'est bien prévu dans l'histoire, que le territoire de Ammon et Moab est un territoire sur lequel on fait le Maaser, et pendant lequel on ne fait pas la Shemitah, et que pendant l'année de la Shemitah, ça sera un Maaser qu'il faudra faire pour les pauvres. Donc rassurez-vous, votre inquiétude de savoir est-ce que c'est un bon enseignement, pas un bon enseignement, on ne sait pas trop, dis-leur que c'est un bon enseignement. Ils ne se sont pas trompés. Fin d'histoire. Alors, c'est quoi cette histoire de tend tes mains pour recevoir tes yeux ? Et l'autre, il tend ses mains et il reçoit ses yeux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? De manière allégorique, nos commentateurs nous disent qu'il y a un grand principe. C'est que nos chachamim sont considérés comme étant nos propres yeux. Le lien qu'entretient le peuple avec les chachamim, le lien qu'entretient les élèves avec leur rave, c'est que le rave, c'est les yeux de l'élève. C'est-à-dire, symboliquement, la direction que tu dois emprunter, fie-toi à la direction que te donne ton maître. Ton rave, c'est tes yeux. Et d'ailleurs, il y a un passou qui nous dit que tes yeux soient en permanence rivés vers tes rabbanim. Tu dois voir tes rabbanim. Tes yeux, c'est tes rabbanim. Donc, ce Yossi-là, il arrive devant son maître. Son maître lui dit, t'as appris quoi au Beit HaMidrash aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'il fait, Yossi ? Il répond. De quel droit tu réponds ? Tu es en train de donner un enseignement devant ton maître. C'est assourd. Tu n'as pas le droit de donner un enseignement devant ton maître.
On a l'impression qu'il lui tend un piège.
Non ! Il attendait qu'il lui dise « Mais non, maître, je n'ai rien appris au Beit HaMidrash en dehors de toi. Ma Torah, c'est la tienne. Tu es mes propres yeux. » Une fois qu'il lui dit ça, qu'il refuse une première fois, le maître, il va insister. Et ensuite, une fois que le maître insiste, tu peux enseigner. Mais pas tout de suite. On dirait que tu attendais que ça. T'es arrivé, je t'ai à peine dit « Vous avez appris quoi au Beit HaMidrash ?» Tac, tout de suite, tu m'as déballé ton truc. Et dis-moi, il n'y a pas de kavod, il n'y a rien. Du coup, tu en perds tes yeux. Tu en perds tes yeux, ton rave, c'est moi. Donc, tends tes mains et reçois tes yeux, je ne te sers plus à rien si tu réagis comme ça. Tu n'as mis aucune forme. Tu dois mettre les formes. Devant ton rave, tu dois mettre des formes. Tu ne parles pas à ton rave comme tu parles à ton copain de Chavruta. Ton chaver en Chavruta. Ton chaver, il dit, hey, t'as appris quoi aujourd'hui ? Toi, tu lui réponds et tu lui... Parce qu'en répondant, tu montres une certaine supériorité, forcément, hein, d'accord ? J'ai appris quelque chose que toi, tu connais pas. C'est pas méchant, mais c'est un peu comme ça. Et c'est même positif dans l'étude de la Torah, il n'y a pas de souci. Avec un chaver, avec ton voisin de synagogue, c'est pas aucun problème avec ton ami de Beit HaMidrash, il n'y a aucun souci. Mais avec ton rave, tu peux pas te permettre. Il y a une certaine tenue à avoir vis-à-vis de ton rave. Et donc, du coup, même si je te demande quelque chose et que c'est un enseignement que je te demande, tu peux pas me l'enseigner comme ça. Comme si tu m'es supérieur et que tu viens m'enseigner un truc. En plus, ton truc, je le connaissais. Parce que moi, je l'ai appris de mes maîtres, etc. Donc, tu peux rassurer le Beit HaMidrash, hein, c'est bon. C'est un truc officiel, c'est bon. Ils sont pas trompés dans leur déduction. C'est reconnu ce qu'ils viennent t'enseigner. Mais toi, en tant que mon élève, tu peux pas comme ça le sortir d'un coup. Tu en perds tes yeux, tu en perds tes repères. T'as perdu tes repères. Tu t'es égaré. Tu t'es égaré, t'as plus de vue. Tu vois plus rien. Donc du coup, tends tes mains et reçois tes yeux. Et l'autre, hein ? Alors attends, on va voir avec la suite. Et l'autre, il s'exécute. T'as raison. Il s'exécute, il tend sa main, il reçoit ses yeux. Ce qu'il y a écrit, Pachat, et Tiada.
Pourquoi en amont, il n'y a pas une interdiction à ce moment-là ? De recevoir un enseignement d'un autre rave que son rave.
Non, ça, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité dans la Torah. Ça n'existe pas. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... tu as le droit d'écouter la Torah que de ton maître. Non. Baruch HaShem, la Torah, elle est assez vaste pour qu'on puisse aller puiser à droite, à gauche, etc. Mais n'en perds pas les principes.
Quand bien même ce rav de qui on aurait écouté ce même enseignement avait une variante, avait une autre approche.
Bien sûr.
Qu'on pourrait même ramener.
La ramène pas comme ça. En fait, c'est ça le truc.
C'est ça.
Bien sûr, ramène-le. Il n'y a aucun problème. La Torah, elle se partage, elle se truc, il n'y a aucun problème. Mais, comme il se doit. Devant ton copain de synagogue, vas-y, éclate-toi. Devant ton rav, mets les formes. Vous avez certainement entendu que... Vous savez certainement, puisque vous m'avez tout enseigné, donc nécessairement que si je comprends, c'est grâce à vous. Enfin...
C'est là, mais c'est pas aussi un peu de la gava, de la part du rav.
En fait, alors c'est toujours...
La limite, elle est quand même...
Elle est hyper fine. Elle est hyper fine.
Si vous voudrez se faire, entre guillemets, mousser, en disant, grâce à toi...
T'as raison. La limite, elle est... La frontière, elle est vraiment hyper fine. Mais dans la Gemara, il y a plein de passages comme ça, où il y en a un qui manque. Des fois, entre les rabbanim, il se manque un peu de respect. Il y en a l'autre, il le maudit. Il lui dit, à partir de maintenant, tu vas avoir un pied noir, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On se dit, ah, mais c'est quoi, c'est de l'orgueil, ce truc. On dit non. C'est que la Torah, elle passe aussi par la forme. Et que la hiérarchie maître-élève, elle est extrêmement importante. Parce que, de la même façon que d'une génération à une autre, on ne doit surtout pas en arriver à dire qu'il n'y a pas de différence. Et que tout est horizontal. Les parents, les enfants, etc. Que tout est horizontal, on est tous des potes, on se tape sur le dos. C'est pas juif du tout comme approche. Dans l'étude, c'est pareil. Il y a ceux qui connaissent plus, ceux qui connaissent moins. Il y a le rav qui t'a... Et je vous rappelle que s'il a été lui rendre visite, c'est parce que c'était un Yom Tov ou un Shabbat. Et que ceux à qui on va rendre visite au Yom Tov ou Shabbat, c'est parce que c'est ton maître. Donc c'est pas juste un maître parmi tant d'autres. C'est son maître avec qui il a découvert l'essentiel de sa Torah. Donc si c'est ton maître, tu te dois, quoi qu'il arrive, même quand il te pose lui-même la question « qu'est-ce que tu as appris ?», tu dois te mettre des formes. Sinon, tu en perds tes repères. D'accord ? Tu en perds tes yeux. Une seconde. Je vous lis la suite, mais rapidement. Mataam, Arbekrachim, Kavjou, Ole Mitzraim, Velo Kavashuma, Ole Babel. Donc, on revient maintenant sur la fameuse parenthèse de l'histoire des territoires, là. Pour quelles raisons ceux qui sont venus d'Égypte, donc la génération du désert, ils ont fait la conquête de plein de villes que les habitants, ceux qui sont venus après la Babylonie n'ont pas fait. Mipene Shekdusha Rishona, parce que la première Kedusha, celle de Moshe Rabbeinu, Kidesha les Sharata, ça a amené une sanctification à la terre, mais juste pour un moment, c'est-à-dire tant qu'on était sur la terre. Velo Kidesha les Hatid Lavo, mais ça n'a pas été sanctifié pour l'éternité. Alors, il y a des territoires, effectivement, quand on est revenu la deuxième fois, volontairement, on les a laissés de côté pour ne pas leur donner de kedusha de la terre d'Israël, pour que les pauvres puissent manger pendant l'année de la Shemitah. C'est un petit résumé de ce qu'on a dit. Et là, pour finir, Tana, et la Braïta se termine comme ça, Leachar Shnitiyav Sheva Dato, Amar, Yehi Ratson, Sheyar Zeru Eneyosi Limkoman, Vechazo. À la fin de l'histoire, lorsque Rabbi Eliezer s'est calmé de son atteinte qu'il a ressentie d'avoir son élève qui lui envoie comme ça la figure un enseignement, une fois qu'il s'est un peu calmé, il a fait une prière, Yehi Ratson, que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Yossi retrouve ses yeux, et il a retrouvé ses yeux. Donc bien évidemment, ça laisse ici la place à la symbolique de l'histoire, mais il n'empêche que la symbolique est très forte. Ah, Razak! Et donc, du coup, la première histoire là avec Rabbi Yehoshua, qui lui n'avait pas été au Beit HaMidrash et qui a vu ses élèves venir, et qu'il a posé la question à ses élèves, racontez-moi ce que vous avez entendu au Beit HaMidrash. Ben, tu m'étonnes, hein? Ah ben non, on n'a rien entendu du tout. On n'a rien, il n'y avait aucun chidouche, il n'y avait rien ce Beit HaMidrash. D'accord? Et donc, du coup, il insiste, et ils mettent l'effort, on ne boit que de ton eau, tu es notre maître, tu es nos machins. Et ensuite, ils lui font l'enseignement. Et je vous rappelle que la halakha nous dit que c'est comme ça qu'on doit se comporter, qu'on n'a pas le droit d'enseigner quoi que ce soit devant son maître, sauf si c'est lui qui te le demande, avec un peu d'insistance, du coup, Razak, tu dois de toute façon mettre les formes, que le seul cas où tu as le droit d'enseigner devant la présence de ton maître, c'est si c'est une halakha qui est extrêmement connue, où il n'y a aucun doute qu'il ne la connaît pas et qu'il ne peut pas se sentir vexé de ne pas avoir donné lui-même le chidouche, un truc hyper basique. Et dit, je crois que c'est le Rambam qui l'écrit, il dit que avant de toute façon que tu ouvres la bouche, quand ton maître te demande de lui donner un enseignement ou quelque chose, tu dois dire « Limad tanu rabenu ». Tu nous as enseigné, toi notre maître, tu nous as enseigné telle ou telle chose. Mais le telle ou telle chose, c'est pas lui qui te l'a enseigné. Puisque toi tu l'as appris ailleurs. Mais tu dois quand même faire cette introduction. Tu nous as enseigné, mon maître, parce que d'une certaine façon, si tu as été en mesure de comprendre l'enseignement que tu as entendu chez un autre rave, c'est parce que lui t'avait donné les bonnes clés d'interprétation pour comprendre la Torah et qui t'a ouvert l'esprit à la Torah. Donc c'est pas vraiment un mensonge. Parce que c'est quand même grâce à lui que tu perçois les enseignements de Torah. Et donc voilà pourquoi ils n'ont pas voulu donner tout de suite l'enseignement qu'ils avaient entendu au Beit HaMidrash, mais qu'ils ont un petit peu attendu. Chazak, ou Baruch. Chazak, messieurs.